Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Les épreuves du bac vont arriver trop vite, on ne sera pas prêt. Après l'annonce d'une réouverture totale des lycées autour du 20 janvier, les syndicats demandent le report des épreuves prévues à la mi-mars pour les futurs bacheliers. Leurs arguments et la réponse du ministère de l'Éducation dans un instant. Nous interrogerons ensuite un responsable de l'Institut IFOP à propos de la vaccination des Français. Vaccination globale contre le Covid-19 qui pourrait commencer en avril, selon Emmanuel Macron. Dans ce journal encore, le compte-rendu d'audience du procès de Nicolas Sarkozy pour corruption et la défense mise à mal hier. La mort de 5 personnes au moins en Allemagne, tuées par un conducteur fou. Et puis l'alunissage d'une sonde chinoise, c'était cette nuit pour rapporter des roches lunaires, une première depuis 44 ans. Elles doivent avoir lieu dès la mi-mars et comptent pour un tiers de la note du baccalauréat. Faut-il reporter les épreuves de spécialité du bac, compte tenu de la crise sanitaire et du fonctionnement hybride des lycées en ce moment? Les syndicats enseignants et lycéens demandent ce report. Une pétition en ligne a déjà réuni 15 000 signatures. Cette demande doit être faite aujourd'hui en bonne et due forme au ministère de l'Éducation nationale pour un comité de suivi de la réforme du bac. Les professeurs et les lycéens le disent, il est aujourd'hui impossible de préparer correctement les épreuves, Alexis Morel.
Depuis près d'un mois, Benjamin, élève de terminale, ne vient au lycée qu'une demi-journée sur deux. Le reste se fait à distance. Alors dans ce contexte, le bac dès mars, ça le stresse.
On a l'impression de prendre du retard sur les programmes parce qu'il y a une partie des cours qu'on doit travailler en autonomie avec des polycopiés qui nous sont envoyés par les professeurs. Et donc, on prend du retard sur le cours. Donc c'est très compliqué de s'imaginer prêt pour ces épreuves.
Et c'est bien pour cela qu'il faut reporter ces épreuves de spécialité de mars à juin, selon certains syndicats enseignants. Et pour une fois, les proviseurs sont sur la même ligne. Bruno Bobkiewicz du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement, craint une rupture d'égalité entre élèves si un report n'est pas décidé, car seule une grosse moitié des lycées est passée à un fonctionnement hybride.
Ah ben oui, parce que forcément qu'à partir du moment où on a un établissement qui maintient les cours à temps complet, un autre qui bascule à mi-temps, l'élève qui a 6 heures de présence dans l'établissement et l'élève qui a 3 heures de présence et 3 heures à distance d'une quelconque façon, c'est quand même pas la même façon d'avancer le programme.
Pour l'instant, Jean-Michel Blanquer n'évoque pas de report, mais un aménagement des épreuves avec par exemple 2 sujets proposés au lieu d'un dans chaque discipline.
Moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures pour le troisième jour de suite, une baisse donc. Le confinement fait lentement son effet en France. Nous retrouvons les seuils du mois de septembre. Sachez aussi qu'hier, 365 décès ont été recensés à l'hôpital à cause du Covid-19. Et à l'avenir, nous pourrons nous faire vacciner entre avril et juin. C'est en tout cas ce qu'envisage Emmanuel Macron. Le président évoque une campagne de vaccination pour le grand public à ce moment-là, après une première vague de vaccination qui sera réservée au public dit les plus fragiles et au personnel soignant. Ce sera a priori en janvier prochain. Une vaccination donc pour le plus grand nombre, selon le président. Encore faut-il que les Français soient d'accord. C'est évidemment tout l'enjeu, dit Frédéric Dabi. Il est le directeur général adjoint de l'Institut IFOP.
On est dans une société de défiance et toutes les sphères ont été touchées. Le politique, depuis le début de cette crise du coronavirus, on a vu des Français de plus en plus défiants, se focalisant sur un sentiment de tromperie, de mensonges, d'absence de transparence, notamment sur la question des masques lors de la première vague. Là, on a plutôt un sentiment d'absence de transparence et de décisions incohérentes avec une absence d'anticipation. Là, sur le vaccin, il y a des prérequis, il y a des choses qui pourraient faciliter la confiance si l'organisation des vaccinations est bien faite. Si, et c'est une attente très forte des Français, si des acteurs de santé de proximité, médecins, pharmaciens sont bien associés, mais il y a une partie des Français qui sont particulièrement rétifs, une partie minoritaire de l'opinion publique, mais plus forte auprès des jeunes, auprès des catégories populaires, auprès des personnes non diplômées. Il y a cette réticence à l'égard du vaccin. Tout ça s'inscrit dans un contexte de défiance à l'égard de la sphère politique, mais également, il faut le dire, à l'égard de la sphère scientifique que les Français ont pu voir pendant toute la période de cette crise s'écharper parfois sur les plateaux de télévision, avoir eu des difficultés à dire ce qu'il en était de cette maladie. Tout ça a entretenu une certaine défiance, voire un soupçon.
C'était Frédéric Dabi de l'IFOP, interrogé pour France Culture par Rosalie Lafarge. Le tribunal correctionnel de Paris a entamé hier le fond de l'affaire dite des écoutes, procès qui juge Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert pour corruption et trafic d'influence notamment. La journée d'hier, Anne Fauquemberg a mis la défense à fleur de peau.
Il y a d'abord eu les morceaux choisis des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur la ligne Bismuth, ouverte secrètement en janvier 2014 et découverte à l'occasion de l'enquête dite libyenne. Des conversations qui évoquent l'ami ou encore Gilbert, ce haut magistrat de la Cour de cassation qui aurait informé les deux hommes au sujet d'un pourvoi de l'ancien président dans l'affaire Bettencourt en échange d'un soutien pour un poste à Monaco. « Je l'aiderai », dit Nicolas Sarkozy dans un des procès-verbaux. Un exposé au cours duquel l'avocat de Thierry Herzog, Hervé Temim, corrige la moindre petite erreur de date ou de mot mal choisi. Puis c'est au tour du premier témoin, cité par le parquet. Le magistrat Patrick Sassoust a été placé en garde à vue dans cette affaire, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Sa position d'avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation lui permettait d'avoir des informations sur l'affaire Bettencourt plus facilement que Gilbert Azibert, qui à l'époque dépendait d'une chambre civile. À la barre, il reconnaît que son ami est devenu de plus en plus insistant à l'approche du délibéré le 11 mars 2014. Il y a eu une succession de déjeuners, contrairement à l'année précédente, observe-t-il. Derrière lui, le haut magistrat Gilbert Azibert, désormais à la retraite, enlève puis remet ses petites lunettes rondes. Aujourd'hui, il devra s'expliquer devant ses pairs.
Anne Fauquemberg, qui suivra donc pour nous aujourd'hui cette première prise de parole de Gilbert Azibert? Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vont co-présider aujourd'hui une nouvelle visioconférence internationale pour soutenir la population libanaise. Sont conviés, entre autres, des chefs d'État, des organisations internationales, des bailleurs de fonds et des ONG, 4 mois après la double explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth. Une réunion qui sera pilotée depuis l'Élysée. Le bilan provisoire est de 5 morts, 14 blessés, dont certains grièvement, tous renversés hier par un homme au volant d'un 4x4 en Allemagne, à Trèves, dans la vallée de la Moselle. Stupeur et effroi dans ce pays qui a connu ces 4 dernières années des attaques de terroristes islamistes ou associés aux idées d'extrême droite. Hier soir, les autorités allemandes ont levé finalement tout doute lors d'une conférence de presse, Ludovic Piétenu.
L'auteur souffre de troubles psychiatriques. Ce sont les mots du procureur qui a demandé une expertise un peu plus poussée que celle réalisée juste après son interpellation. L'homme était ivre après les faits. Le procureur a donc mis plusieurs choses de côté. Ce n'est pas un geste terroriste, une motivation politique ou religieuse. Il parle d'un geste délibéré qui l'a conduit à semer la mort pendant 4 minutes, ne s'arrêtant au bout de 800 mètres uniquement parce que stoppé par la police. Avant cela, il a roulé à grande vitesse dans cette zone piétonne et fait des zigzags à dessein pour tuer un peu plus. Le maire de la commune paraît comme ahuri par une telle violence. Je ne peux pas comprendre d'où vient l'idée de se dire « je vais prendre ma voiture, traverser une zone piétonne et tuer des gens ». La ville entière a prévu une cérémonie et un recueillement dans la matinée vers 10h. Trèves sous le choc et avec elle toute l'Allemagne.
Ludovic Piétenu. C'est une nouvelle étape dans l'aventure spatiale de la Chine qui veut envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 10 ans. Cette nuit, la sonde Chang'e 5 s'est posée sur la face visible de la Lune dans une région connue sous le nom d'Océan des Tempêtes. Contrôlée depuis la Terre, cette mission chinoise de collecte de roches lunaires va durer 2 jours. Et ces dernières heures déjà, la sonde a envoyé des images. C'est un récit signé Dominique André.
Des applaudissements et de la musique classique pour célébrer l'événement, la CCTV, la télévision nationale, a diffusé avec fierté une courte séquence des images envoyées depuis la Lune par la mission Chang'e 5. L'un des commandants de l'Agence spatiale nationale chinoise a donné les premiers détails de cette nouvelle étape. La sonde s'est posée sur la Lune sur un sol stable, dégagé, il n'y a pas de grands cailloux, explique Xie Wei. Ça nous aidera à collecter les échantillons et à les mettre ensuite dans le récipient. La collecte qui a commencé va durer environ 48 heures. Les échantillons sont prélevés jusqu'à 2 mètres de profondeur dans une zone géologique plus jeune que lors des missions américaines et soviétiques, dont la dernière remonte à 1976. Les roches recueillies par un bras robot sont placées dans un récipient. Un véhicule de remontée les transportera ensuite pour les transférer dans une capsule de retour placée en orbite qui doit les ramener sur Terre. Ces technologies sont testées aussi dans l'objectif d'envoyer des astronautes chinois sur la Lune. La NASA a immédiatement tweeté ses félicitations après l'alunissage et exprimé ses espoirs que les échantillons feront progresser la communauté scientifique internationale.
C'était Dominique André depuis Pékin pour France Culture. Le temps sur la France métropolitaine ce mercredi, il sera assez nuageux, parfois pluvieux et toujours froid de la Normandie jusqu'à l'Auvergne. Ce matin, comptez 1 degré à Strasbourg, 3 à Bordeaux et Grenoble, 7 degrés à Paris et 10 degrés à Nice.